On commence notre étude, on est dans Éphésiens au chapitre 3, on va faire le verset 1 à 13, puis on a parlé la semaine, pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, dans le chapitre 2, c'est vraiment l'Église avec les deux, les païens et les juifs dans un même corps pour former l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de distinction, les Juifs n'étant pas au-dessus des païens, c'est vraiment réconcilié. Les deux ont été réconciliés par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, tous sauvés par la grâce, tous des pécheurs qui avaient besoin de repentance, puis avaient besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés de leur péché. Puis maintenant, c'était quelque chose de nouveau. Ils formaient un seul corps. Et maintenant, on va voir si Paul, il nous parle ici que c'était une révélation qu'il a eue de ces choses-là. Mais avec la révélation, on va voir qu'il y a aussi une grande responsabilité. Puis c'est parce que là, avec la révélation, il y a une intendance qui est donnée aussi. Fait qu'on va lire, avant d'aller plus loin, on va lire le chapitre 3, verset 1 à 13. Il dit au verset 1 du chapitre 3 d'Éphésiens, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander au Seigneur de nous donner son aide dans cette étude. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour tous ceux qui sont ici ce soir sur cette réunion à travers Zoom. On te remercie de nous rassembler. Seigneur, c'est une joie pour nous de passer un temps dans ta parole, d'être édifiés dans ta parole. Puis on te demande ton aide par ton esprit afin qu'on puisse bien comprendre les choses que tu as écrites, tu nous as données par écrit, afin qu'on puisse les prendre dans nos cœurs pour t'aimer, te servir. On te remercie pour tout cela, Seigneur, puis donne la bénédiction à chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Donc là, on voit, c'est ça, c'est une révélation. Paul, il nous parle ici d'une révélation qui a été donnée aux saints apôtres et aux prophètes. Quand on parle des saints apôtres ou des apôtres et des prophètes dans le Nouveau Testament, ben, c'est eux qui nous ont donné les Écritures parce que c'est eux qui ont reçu l'inspiration pour écrire les livres du Nouveau Testament. Mais dans ces choses-là, on sait qu'on voit maintenant que c'est une révélation qui a été donnée en rapport avec l'Église qui n'existait pas auparavant pour nous. Comme on a dit auparavant, l'Église, ben, elle existe depuis 2000 ans et on la connaît, mais même s'il y a des choses, beaucoup, qui ont été ajoutées par les hommes qui ne sont pas nécessairement l'Église comme le Seigneur l'a désigné. Mais il y a des choses qui ont été ajoutées. Mais quand même, pour nous, cette pensée-là de l'Église, on l'a depuis 2000 ans, donc on comprend un peu. Mais si on se met à la place de ceux qui ont reçu comme Paul à ce moment-là, Paul qui était vraiment contre le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui était très attaché au judaïsme. Puis on sait que l'Église a commencé avec les Juifs à Jérusalem. Puis ensuite de ça, c'est étendu. Mais pour eux, il y avait toujours cette pensée-là qu'ils étaient supérieurs aux nations, aux gentils, parce que Dieu s'était révélé à travers eux. Il avait donné ses Écritures. Puis le Christ, il venait de la lignée d'Israël. Mais Mais il fallait qu'ils apprennent. On a vu ça un peu la dernière fois, là, c'était difficile pour eux autres de comprendre ça, mais le Seigneur a fait en sorte qu'ils soient vraiment convaincus qu'ils n'étaient pas supérieurs dans l'Église, mais ils étaient au même titre. Puis, comme Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc ici, on parle comme on a dit, on parle de révélation, mais aussi de intendance du mystère. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par intendance. Donc le mystère, comme on a déjà parlé dans les réunions qu'on a le lundi soir, on a déjà vu les mystères du royaume. Je ne sais pas si tout le monde était là, peut-être pas tout le monde qui était là quand on a regardé les mystères du royaume. Mais juste pour faire une révision pour ceux qui n'étaient pas là aussi, un mystère dans les Écritures. Bien, comme la note de Scofield, il dit, dans les Écritures, un mystère est une vérité cachée auparavant que Dieu révèle en partie dans le temps présent. Donc, c'est pas comme on pense des fois, on dit, ah, oh, c'est un mystère, essaie pas de comprendre. C'est pas comme cela que c'est le mot, ce qu'il veut dire. C'est que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu savoir, on n'aurait jamais pu comprendre, à moins qu'il ne nous soit révélé. Mais quand il nous est révélé, c'est pour ça que Paul y parle ici, il dit en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, Paul avait une grande intelligence du mystère de Christ parce qu'il avait reçu la révélation. On va en parler de ça. Donc, c'est quelque chose que lorsque révélé, ben, c'est sûr que le Seigneur, il nous le révèle pour qu'on le comprenne. Mais c'était des choses qu'on n'aurait pas pu comprendre, qu'on n'aurait pas pu imaginer. Mais Dieu, en nous révélant, mais ça faisait partie de son plan de toute éternité. Dieu avait son plan de faire ces choses-là de cette façon-là. Puis, quand on les découvre, bien, ça nous aide à rentrer dans la pensée de Dieu ici. Comme on l'avait vu, il y a 10 mystères dans le Nouveau Testament. C'est une belle étude de regarder les mystères du Nouveau Testament, les choses qui ont été révélées aux 16 apôtres et aux prophètes de Christ dans le temps du Nouveau Testament. Donc, le premier mystère qu'on peut voir, c'est le mystère du royaume des cieux, on trouve ça dans Matthieu 13, les versets 3 à 50. Le Seigneur Jésus, avec une série de paraboles, nous fait comprendre le mystère du royaume des cieux, parce qu'il dit le royaume des cieux est semblable, hein? Puis là, il nous donne 7 paraboles pour nous faire comprendre ces choses-là. Le deuxième mystère, c'est le mystère, pas nécessairement en ordre chronologique, là, on les met dans cet ordre-là, là, mais le deuxième, c'est le mystère de l'endurcissement d'Israël pendant l'âge présent. Donc, depuis que le Seigneur Jésus, qu'ils ont rejeté leur Messie, ben Israël est venu un jugement sur eux qui sont dans l'aveuglement présentement. Et à moins qu'ils ne se convertissent au Seigneur Jésus, ben, ils ne comprennent pas, ils sont dans l'aveuglement. Dieu les a mis de côté pour un temps. Ils vont revenir avec eux autres, mais il les a mis de côté pour un temps pendant l'âge présent ou la dispensation dans laquelle on se trouve, qui est la dispensation de la grâce ou de l'Église. Eh bien, on voit ça dans Romains 11, 25 et les versets suivants. Ensuite de ça, il y a le mystère de l'Église du Nouveau Testament. C'est ce qu'on voit ici, là. L'Église du Nouveau Testament, comme le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le Seigneur commençait à révéler ce qu'il allait faire. Puis, on voit ça donc, c'est un corps, comme on voit ici dans l'Épître aux Éphésiens, c'est un corps composé de juifs et païens. Puis, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. On peut voir ça dans Romains 16, 30, 16, 25, Éphésiens 3, 1 à 12, comme on va voir ce soir, Éphésiens 6, 19, Colossiens 4, 3, puis l'épouse de Christ, mais on le voit dans Éphésiens 5, 23 à 32. Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Okay. Le quatrième, c'est le mystère de la vie de Christ dans le croyant. Puis dans Galates 2, 20, Paul dit, si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il est venu habiter en nous, donc le Christ vit en nous. Ça, c'est le mystère de la vie de Christ dans le croyant. Puis on peut comparer ça un peu aussi à un gland d'arbre ou une cocotte d'arbre. Dans la cocotte, il y a la vie pour un arbre. puis éventuellement, quand la cocotte elle pousse, mais il va pousser un arbre. C'est la même chose. Christ est venu habiter en nous. La vie de Christ habite en nous. Cinquièmement, il y a le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, c'est Christ qui habite. C'est que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, c'est Christ est devenu un homme, mais cet homme-là, Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Puis Christ est aussi l'incarnation de Dieu, démontrant sa sagesse en faveur de l'homme. Donc Dieu s'est fait homme, ça c'est un mystère aussi. L'incarnation, Dieu, c'est Christ, Dieu habite corporellement dans le Seigneur Jésus-Christ. On a après ça le mystère de la piété, parce que on a le péché ici sur la terre, mais quand on voit Christ vraiment incarne la piété, parce que lui était sans défaut, il était impeccable. Donc le mystère de la piété, c'est Christ manifesté en chair, puis c'est en vue qui permet à l'homme de retrouver sa ressemblance avec Dieu. Parce qu'avant ça, on était créé à l'image de Dieu, mais le péché nous a déformés. Mais quand Christ était manifesté dans la chair, bien, il est devenu un homme pour être notre nouveau chef de file. Avant, c'était Adam, un pécheur, qui était notre chef de file. Maintenant, quand on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de notre âme, bien, on est transféré, comme on lit dans Éphésiens, on a lu dans les bénédictions, qu'ils sont en Christ. Donc, quand on était positionné en Christ, on a un autre chef de file qui est le Seigneur Jésus. Ça nous permet de ressembler maintenant, de revenir à ce qu'on devrait être. 1 Timothée 3, 16, avec 2 Corinthiens 3, 18, 1 Jean 3, 1. Donc, après ensuite de ça, on a le mystère de l'enlèvement des saints à la fin de l'âge actuel. C'est-à-dire à la fin de la période de l'Église, avant la tribulation, on a l'enlèvement de l'Église. Comme le Seigneur Jésus l'a promis, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi là où je suis, afin que vous soyez. On va être avec lui pour l'éternité. Puis ce mystère-là, on lit dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, puis il explique ici l'enlèvement. Puis aussi, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 13 à 17, on ne s'afflige pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, mais on sait que ceux qui sont morts avant nous, ils vont être ressuscités, puis nous qui sommes restés vivants pour l'avènement du Seigneur, on va être transformés en un instant, en un clin d'œil, pour aller à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Donc, ça, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est un mystère qui a été révélé aussi aux apôtres et aux saints prophètes, aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. On a ensuite de ça, en contraste avec le mystère de la piété, qui le Seigneur Jésus qui incarnait la piété parce qu'il était impeccable, on a le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, on sait que ça va être l'homme de péché qui vient dans 2 Thessaloniciens 2, 7. 1 Jean 4, 3, puis comparé à c'est ça, puis il y a aussi dans Matthieu 13, 33. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est vraiment un homme qui va. Autant le Seigneur Jésus a personnifié la piété, cet homme-là, c'est un homme sans loi, sans règles. Lui, il va personnifier vraiment l'iniquité. Donc, ça, c'est par la manifestation de Satan. Neuvième mystère, on avait le mystère des sept étoiles dans l'Apocalypse 11, dans l'Apocalypse 1, 20, les sept étoiles. Le Seigneur nous dit qu'il y a les sept chandeliers d'or, puis il y a les sept étoiles, puis il nous parle aussi des sept églises avec leurs messagers. Donc, le mystère des sept étoiles. Puis ensuite de ça, il y avait comme le dixième mystère, c'est le mystère de la grande Babylone. Puis dans Apocalypse 17, 5 et 7. Apocalypse 17, 5 et 7. Donc, c'est le mystère de la grande Babylone. C'est cette chrétienne. Il y a la Babylone religieuse, puis il y a la Babylone commerciale qui va être détruite par le Seigneur pour ensuite de ça, il va établir son règne. OK. Donc, ici, le mystère, comme on a dit, le mystère qui est en question ici, quand Paul il nous parle de ce mystère-là, quand il dit au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, c'est le mystère de l'Église, qui est un corps unique, mais composé de juifs et de païens. Peut-être qu'on pourrait aller dans Romains 16, 25. Un moment. Romains 16, 25. Romains 16, 25. Il dit au verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, c'est un mystère qui n'a pas été juste pour les Juifs, mais qui a été manifesté à toutes les nations. Puis tous ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, bien, ils viennent prendre leur place dans cette église-là qui appartient au Seigneur Jésus, qui est son épouse. Or, comme on le voit ici dans Éphésiens 3, 1 à 12 aussi, puis on va aller dans Éphésiens 6, 19. 3, 1 à 12, c'est ce qu'on regarde présentement. Mais 6, 19, il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, Paul, il annonçait ce mystère-là pour que les gens, ils prêchaient l'Évangile, pour que les gens puissent être sauvés, puis faire partie de ce corps-là qui est l'habitation de Dieu en esprit. Peut-être dans Colossiens 4 aussi, il dit au verset 3, Colossiens 4 au verset 3, il nous parle aussi de cela. Il dit ici, Colossiens 4, 3, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Voyez-vous, Paul, c'est ça qui était à son ministère, on va le voir, parce que c'est une intendance qui lui avait été confiée, puis Paul se devait de prêcher l'Évangile. Mais on voit aussi que ce corps unique-là, si on va dans Éphésiens au chapitre 5, ben c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 5, et versets 23 à 32, quand Paul donne les instructions à l'homme, parce que dans la parole de Dieu, l'homme représente le Seigneur Jésus-Christ, puis la femme, elle, représente l'Église. Puis là, il donne dans les instructions aux maris comment traiter leur femme, bien, il montre comment Christ traite son Église. Dans verset 23 d'Éphésiens 5, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, n'est rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous, verset 32, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, il nous dit ici que la relation entre le mari et la femme, entre un homme et une femme, comme mari et femme, eh bien, ça représente la relation que Christ a avec son Église. Comment il s'est livré lui-même pour elle. Mais en même temps, l'Église, elle, doit se soumettre à son chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme est le chef de la femme, puis la femme se soumet, mais l'homme, lui, doit prendre soin, comme Christ l'a fait. Je me souviens, il y avait un prédicateur, un jeune marié, il était venu le voir, puis lui avait dit, il dit, je pense que j'aime trop ma femme. Puis il avait peur que ce soit comme de l'idolâtrie. Et le prédicateur lui a dit, est-ce que tu l'aimes comme Christ a aimé son Église puis qu'il s'est livré lui-même pour elle? Ben, il dit non, ben, tu ne l'aimes pas encore assez. C'est que c'est vraiment de prendre soin comme Christ. Puis, parce qu'on représente dans notre relation, on représente la relation que Christ a avec son Église, comme on voit ici, là. Donc, comme on avait dit, ça, c'est un changement radical, là, quand on parle dans la façon d'agir avec les Juifs et les païens. Parce que là maintenant, il n'y a plus de différence. Puis Dieu a vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence dans l'Église. Par le baptême du Saint-Esprit, comme il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit homme ou femme. Donc en tant que position dans l'Église, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Il y a des rôles différents, mais on est tous sur le même niveau en tant que faisant partie de l'épouse de Christ. C'est sûr qu'il y a une structure par rapport à, comme les apôtres, les prophètes qui nous ont donné les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ qui en est la tête, puis mais on est tous des frères et des sœurs en Christ. Ce qui arrive, c'est que cette Église-là, c'est un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Ça vient de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte. C'est pour ça que c'est triste quand les hommes commencent à faire en sorte que l'Église soit selon l'homme. L'Église ne doit pas être selon l'homme. L'Église doit être selon le Seigneur Jésus-Christ, selon le plan que Dieu a fait dans sa pensée. Puis c'est là que l'Église est belle, quand elle est vraiment selon les instructions du Nouveau Testament, selon l'instruction qui était donnée, comme Paul dit, là, il dit, en les lisant, vous pouvez vous imaginer l'intelligence que j'ai de ce mystère-là. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment retourner à l'Église, à l'Écriture, toujours pour savoir comme les choses concernant l'Église. On sait qu'à travers les années ténébreuses, comment ça a dégénéré dans cette Église-là qui a commencé comme un organisme vivant du temps des apôtres, quand le Seigneur Jésus, à la Pentecôte, cette Église-là est née. Puis on voit qu'elle est devenue une organisation d'hommes. Puis ça, c'est triste dans un sens, parce que le Seigneur avait parlé un grain de sénévé, c'est la plus petite des semences, mais quand elle a poussé, elle devient un grand arbre, puis les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Puis les oiseaux, dans la parole de Dieu, c'est toujours un signe de quelque chose de mauvais, comme des influences du mal qui viennent. Puis on voit que l'Église aujourd'hui, il y a une grande, il y a ce qu'on appelle la chrétienté, mais il y a une grande organisation qui, même à la fin, il va avoir une Église apostate. C'est-à-dire que ce ne sera pas la vraie Église de Christ, ça va être une imitation qui va rester quand l'Église va être enlevée, parce qu'ils ne sont pas des vrais croyants, ils ne seront pas enlevés, ils vont rester sur la terre pour passer dans la tribulation. Donc, l'Église, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Puis, quand on se met à considérer comment c'est tellement beau, cette Église-là, mais ça nous parle de la sagesse de Dieu. Puis même, ce n'est pas juste nous autres. Comme au verset 9, il dit, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Puis au verset 10, il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, les anges, les autres, ils désirent. Puis c'est pour ça qu'il est question des anges quand on voit par rapport au voile dans 1 Corinthiens 11. Il dit, parce que les anges, ils peuvent voir l'Église dans son fonctionnement, puis à travers ça, ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu. Pierre parlait dans lesquels les anges désirent plonger leur regard, parce que l'Église est basée sur elle est basée sur le plan de rédemption de Dieu. Parce que tous ceux qui font partie de la vraie Église, ceux qui sont vraiment, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ. Puis on voit que sur le propitiatoire, qui était le couvercle de l'arche dans l'Ancien Testament, dans le temple, où le sang était appliqué pour que l'homme puisse entrer dans la présence de Dieu, il y avait des chérubins qui regardaient vers le propitiatoire, où le couvercle de l'arche, où le sang était appliqué. Puis c'était vraiment, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment Dieu a pu pourvoir à un sacrifice qui réconcilie l'homme rebelle, l'homme pécheur, afin qu'il puisse entrer en contact avec le Dieu trois fois saint. Donc mais ça fait en sorte que la doctrine de l'Église est très importante. Et il ne faut pas marcher par notre imagination. Des fois, il y a des gens qui pensent, beaucoup aujourd'hui, qui pensent que l'Église, ben, il n'y a pas d'instruction dans la parole de Dieu, puis on fait ça comme on pense, puis c'est correct de même. C'est pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'homme dans l'Église aujourd'hui. Il faut vraiment revenir aux Écritures. Puis, dans les années 1800, on sait qu'il y avait beaucoup de dénominations. Puis, il y en a qui, poussés par l'Esprit de Dieu, sont demandés, parce que l'Église est supposée d'être une, est supposée d'être dans l'unité. Mais ce n'est pas l'œcuménisme qu'on voit aujourd'hui. Les gens, au lieu de rechercher les Écritures, ben, ils confondent toutes les idées d'hommes ensemble. Puis, ce n'est pas une vraie unité. C'est une conformité. Mais ceux qui ont fouillé, ils ont cherché les Écritures pour voir comment ça se faisait, ben, ils ont abandonné les choses des hommes qui séparaient l'Église, qui divisaient l'Église, et puis ils sont venus au centre, avec le Seigneur Jésus-Christ au centre, les instructions de la parole dans toute leur simplicité. Puis c'est vraiment bon de voir ça quand on de faire comme le Seigneur nous a donné ses instructions. Donc, la doctrine de l'Église est très importante. On dirait que toutes les autres doctrines, il faut faire attention, mais il y a des gens qui pensent que l'Église, c'est pas. Mais la doctrine de l'Église est très importante. Puis c'est pour ça que si on ne fait pas attention, bien, ça donne. Il y a beaucoup de confusion comme on le voit aujourd'hui, là. Voyez-vous, quand il dit à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ dans le verset 1, pour vous, païens. Donc, Paul, il était pas. C'est sûr qu'il était prisonnier de Rome, mais lui, il ne se voyait jamais comme prisonnier de Rome. Il se voyait comme prisonnier du Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre que le Seigneur lui donnait de faire pour les païens. Puis peu importe les circonstances, il savait que le Seigneur avait permis ces circonstances-là. Puis même quand il a été mis en prison, on voit que Paul, en prison, il a écrit des épîtres qui sont en rapport avec les instructions de l'Église, parce qu'il écrivait à des églises pour leur donner des instructions. Puis on appelle les épîtres de la captivité. Quand Paul était en captivité, ben, il s'est arrêté parce que Paul était très occupé. Puis probablement qu'il n'aurait pas eu le temps d'écrire toutes ces épîtres-là s'il n'avait pas été en prison. Mais le Seigneur, on voit que si l'homme a mis Paul en prison, ben, le Seigneur, lui, il pouvait l'utiliser en prison parce que le Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à lui. Puis il a fait que son ministère nous est donné par écrit. Des choses qu'il avait sûrement enseignées à ces églises-là, mais en les mettant par écrit, maintenant, nous, on peut en profiter aussi autant qu'eux autres. Donc, il dit au verset 2, il dit, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Voyez-vous comment Paul voyait ça, là? Il voyait que c'était quelque chose que Dieu lui avait remis. Il avait eu la vision. Par révélation, Dieu lui avait remis ça, mais il avait, en ayant cette révélation, ça lui donnait un devoir, une responsabilité de pouvoir le transmettre, nous le transmettre à nous. Dans la version Darby, il dit, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous. Donc, elle ne lui avait pas été donnée pour lui, pour qu'il s'enfle d'orgueil, puis qu'il dise, oh, regarde, moi, je suis plus grand que vous autres, j'ai eu une révélation de Dieu. Non, Paul comprenait vraiment que cette révélation-là lui avait été donnée. C'est une intendance, comme on a parlé au début, qui avait été remis avec la responsabilité de la transmettre. Puis on sait que ça lui a coûté cher, Paul, de transmettre cette révélation-là, parce que c'est à cause de ça qu'il a été persécuté. C'est à cause de ça qu'il a vu, quand on lit ses souffrances dans 2 Corinthiens, là, il a fait naufrage, il a été lapidé, il a passé, il a eu toutes sortes d'expériences à cause du fait qu'il voyait comme un commandement de Dieu de pouvoir faire ces choses-là. Quand on parle d'administration, c'est le mot dispensation. C'est oikonomia, là, c'est une administration. C'est comme l'administration d'une maisonnée ou d'un héritage. C'est ça que ça veut dire. C'est comme si quelqu'un et lui remis un héritage pour le garder en vue de ceux qui sont les héritiers, parce que peut-être qu'ils sont jeunes encore. Fait que quelqu'un a été mis comme tuteur pour faire en sorte que l'héritage se rende au bon endroit, qu'il soit donné de la bonne façon. Puis c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est l'administration de la propriété par un autre. Donc, Paul, il avait reçu cette intendance-là, puis c'était précieux. Il fallait pas qu'il la change. Il fallait qu'il la transmette comme il l'avait reçue. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent, ben, les traditions, c'est pas bon. Mais quand Paul il dit, je vous loue de ce que vous retenez mes instructions telles que vous les ai données, le mot les instructions ici, c'est le mot pour tradition. Puis tout ce que ça veut dire, tradition, c'est quelque chose qui a été transmis. Donc, quelque chose qui a été transmis. C'est certain que si on regarde des traditions d'hommes, le Seigneur dénonçait le peuple de l'Ancien Testament parce qu'il disait qu'ils marchaient d'après les traditions des hommes. Ça, c'est pas bon. Mais si la tradition vient de Dieu, si la tradition nous vient de l'Écriture, elle est bonne, il faut la garder. Puis, dans Éphésiens, comme ici, dans Éphésiens 3:9, voyez-vous, il dit de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité, qui est en Dieu qui a créé toute chose, donc qui a été caché de tout temps en Dieu. Donc, ici, la révélation du mystère. Au verset 3, Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, Paul avait reçu une révélation de ce mystère-là. Comme on a dit, il n'aurait jamais pu le connaître, il n'aurait jamais pu le comprendre à moins qu'elle lui soit révélée. Donc, on sait que dans sa vie, Paul, il s'opposait vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Il faisait mourir ceux qu'il suivait. Il avait ajouté son suffrage quand ils ont lapidé Étienne. Puis, il allait pour mettre en prison ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur. Puis quand il rencontre le Seigneur, ben là, ça a été toute une révélation pour lui, là. Et quand il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Puis il dit, qui es-tu, Seigneur? Puis il dit, je suis Jésus de Nazareth. Donc, son nom d'identification en tant qu'homme, Jésus de Nazareth, c'est lui que Paul persécutait. Puis le Seigneur lui a dit, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Les aiguillons, c'est quand on faisait marcher des bœufs ou des animaux. Puis pour les faire avancer, on les piquait avec un aiguillon en arrière. Puis quand il ruait contre, ben là, il se blessait encore plus. Il se blessait en ruant, il se frappait après les aiguillons, puis ça les blessait encore plus. C'est un peu ça que c'est ça que Paul voulait dire à Paul. Le Seigneur voulait dire à Paul, il dit, quand tu te régimbes contre moi, là, tu te blesses encore plus. Puis, mais là, il a compris, il a brisé, puis il a été obéissant au Seigneur. Donc, il a eu sa révélation-là, à ce moment-là, comme le Seigneur, il a vu une grande lumière qui resplendissait plus que le soleil à son midi, là. Mais il y a eu d'autres révélations aussi, Paul, puis à travers son ministère. Puis il raconte sa révélation. Allez dans Galates au chapitre 1, versets 11 à 19. Paul, il raconte à différents endroits, là. Ici, dans Galates 1, verset 11, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ben non, parce que c'est une révélation. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, il nous parle ici d'une révélation qu'il a eue, puis que ça venait pas de l'homme, Mais c'était vraiment, parce que lui étant un apôtre, il avait reçu, comme les apôtres ont reçu l'enseignement durant que le Seigneur Jésus était sur la terre avec eux pendant 3 ans et demi, eh bien, Paul, lui, il l'a reçu du Seigneur ressuscité. Mais c'était le même. C'est pour montrer ici que c'était la même révélation que les autres apôtres avaient eue, mais Paul, il l'a eu encore d'une façon plus profonde. Il a eu une plus grande connaissance. Même Pierre, il dit que notre bien-aimé frère Paul, qui en parle avec des choses difficiles à comprendre, dont certains tordent le sens pour leur propre ruine. Mais on va aller maintenant au chapitre 2 de Galates. Chapitre 2, les versets 1 à 2. Il dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Mais c'est ça. Puis on va voir plus tard, on voit que les apôtres ont été en plein accord avec lui dans le chapitre 2 de Galates, au verset 6 à 10. Il dit ici, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Voyez-vous comment est-ce que c'est par révélation, comme les autres apôtres l'avaient reçu du Seigneur Jésus-Christ, Paul aussi l'avait reçu du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, Paul, en parlant de sa... Parce qu'il y en a qui... C'est comme qu'il discréditait Paul, mais parce qu'il disait qu'il était faible quand il venait parmi eux en parole. Mais c'est des gens qui essayaient de détruire l'autorité de Paul. Mais Paul, en défendant son apostolat, dans le chapitre 12 de 2 Corinthiens, les versets 1 à 4, il nous dit ici, 2 Corinthiens 12, 1 à 4, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Puis quand il dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, c'est que c'est comme si c'est que le langage ne permet pas de décrire les choses que Paul a pu voir là. Mais à un moment donné, il a été lapidé. Puis dans le chapitre 14 des Actes au verset 19, puis il a été laissé comme mort. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il a eu une révélation? Mais peut-être aussi. Mais on sait que Étienne, lui, quand Étienne a été lapidé, bien, il a vu le Seigneur Jésus, puis il a vu le ciel ouvert, puis il a vu le Seigneur Jésus à la droite, puis il a eu une vision aussi. Mais au verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc ici, on voit que c'est un mystère qui était caché auparavant, mais maintenant, il a été révélé d'une façon grande aux apôtres de Christ ici, là. Puis on va aller peut-être dans 1 Pierre 10, verset 1 Pierre 10, 1 Pierre, pardon, 1 Pierre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12, il nous dit ici, 1 Pierre 1, 10 à 12, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, on voit que Paul, il dit ça aussi, mais Paul, il raconte sa vision en différents endroits dans la parole de Dieu. Et dans Acte 9, verset 3 à 9, c'est quand ça s'est passé, c'est sa conversion. Dans chapitre 22, et versets 6 à 21, quand il s'est présenté devant des rois pour se défendre, le chapitre 23, le verset 11, le chapitre 26, les versets 13 à 19. Donc, on voit, quand on lit tous ces passages-là, ça nous donne une vue d'ensemble de l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Donc, acte 9, 3 à 9, acte 22, 6 à 21, acte 23, 11, acte 26, 13 à 19. Maintenant, on revient à Éphésiens 3, au verset 6. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, c'était dur, comme on a vu la dernière fois, c'était dur à concevoir pour les Juifs qu'ils n'étaient pas supérieurs. Même s'ils ont reçu l'Évangile à Jérusalem, d'abord, c'est pour ça que, comme l'Église catholique se dit être l'Église de Rome, mais vraiment, l'Église a commencé à Jérusalem. Mais ce n'est pas resté, ce n'est pas l'Église de Jérusalem, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'elle a commencé par les Juifs, mais elle a continué à s'est allée vers les païens. Le Seigneur avait dit dans la Grande Commission d'aller, en commençant par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il disait de prêcher l'Évangile, puis d'enseigner tous dans les choses qu'ils avaient connues, de les enseigner pour faire des disciples. Donc, c'était difficile à concevoir pour les Juifs. On a vu ça un peu la dernière fois, qu'il a fallu que le Seigneur leur montre clairement à Pierre. Ensuite, Pierre leur révélait aux autres, les Juifs, les circoncis. Mais si on parle d'une révélation, puis oui, c'est une grande révélation. Ça fait déjà 2000 ans que cette Église-là existe. Mais avec la révélation, vous savez, il y a des gens qui ils vont nous dire, ah, j'ai eu une révélation, j'ai eu une vision. Puis moi, je dis dans ce temps-là, quand quelqu'un me dit qu'il a eu une vision, ben, je dis, ta vie sera plus jamais la même. Parce que si on a une vision du Seigneur Jésus-Christ, si on a une vision de ces choses-là, comme Paul, sa vie n'a plus jamais été la même. Puis aussi, si quelqu'un a eu une vision, ben, comment il va en souffrir? Parce que Paul, ayant eu cette vision-là, ben, il a souffert beaucoup dans toute sa vie parce que à cause de cette vision-là, il était pris. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis dans la foi, je vis dans la foi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, le fait d'avoir cette révélation-là a fait de Paul un ministre de l'Évangile, un ministre de cette révélation-là. Il dit au verset 7, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, il a eu ici une responsabilité. Il est devenu un serviteur, mais hein, qui a été fortifié par la puissance du Seigneur. Puis on sait que Paul a fait, sa vie a été vraiment vécue pour donner gloire au Seigneur, pour faire avancer ce mystère-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on reçoit juste pour satisfaire notre ego, là, parce que dire, ben, moi j'ai une révélation, puis là je m'assieds là-dessus, mais vraiment, puis même nous autres aussi, la connaissance, on n'a peut-être pas une révélation comme Paul a eu, mais Paul nous a transmis cette révélation-là. Puis quand on comprend ces choses-là, ça nous rend responsable de le transmettre à d'autres. Ça, c'est vraiment important, là. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2, Paul dit à Timothée ici, il dit au verset 2 de 2 Timothée 2, il dit, c'est tout des deux, là, 2 Timothée 2, 2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça fait en sorte que tout cet enseignement-là, elle nous est parvenu à nous à travers les générations, là. Puis on doit être reconnaissant pour ceux qui ont pris cette charge-là de nous transmettre ces révélations-là. Mais nous aussi, quand on la reçoit maintenant, on est responsable de la transmettre aussi à d'autres, là. Puis c'est l'excellence de sa connaissance a fait de lui un grand serviteur. Il ne s'appartenait plus à lui-même. Puis, comme il disait, je ne fais aucun cas de ma vie. Paul, il faisait plus aucun cas de sa vie. Puis, il était prêt à même, comme il l'a dit, il était prêt même à mourir pour le Seigneur. Parce que, il disait, pour moi, vivre, c'est Christ et la mort m'est un gain. Donc, il n'a plus jamais été le même. Mais en même temps, Paul voit ça comme une grâce qui lui est accordée. Parce qu'il dit dans le verset 7, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Donc c'était une grâce parce qu'il va dire plus tard, à moi qui étais un blasphémateur, un meurtrier, à lui qui il avait été tellement contre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui fait une grâce en lui donnant ces révélations-là, puis en lui donnant aussi un ministère à accomplir. Donc c'est vraiment important. Paul, il voit ça comme une grâce qui lui est accordée. Vous savez, on peut vivre notre vie pour nous-mêmes, mais ça ne vaudra rien pour l'éternité. Mais si on vit pour le Seigneur Jésus-Christ, si on vit pour que notre vie ait une valeur dans l'éternité, c'est-à-dire que si on fait l'œuvre de Dieu dans notre vie, ben ça va amener de la gloire au Seigneur, puis ça va compter pour l'éternité. Le Seigneur va savoir nous récompenser avec ça. Donc, Paul était prêt à tout, on le voit dans le verset 13, là. Il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Donc, Paul, il dit, garde, perdez pas courage, je vais endurer des afflictions, mais ça, c'est votre gloire, là. C'est parce que en faisant l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, vous recevez la révélation que j'ai eue, puis ça va être votre gloire. Mais comme il disait, avec ça, avec la demande vient aussi la puissance. Voyez-vous la fin du verset 7, par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc le Seigneur, en donnant ce commandement-là, il donne aussi la puissance pour le faire. Puis Paul disait dans 2 Corinthiens 4, 7, il dit, nous portons ce trésor, donc c'était quelque chose de très précieux, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'importance, comme il disait dans 1 Corinthiens 4, c'est que d'un intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Donc, c'est important qu'il soit trouvé fidèle. Donc, dans les versets 8 à 11, on voit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, il veut faire connaître ce mystère-là, de le mettre en lumière, des choses qui ont été cachées de toute éternité. Mais il dit même, il révèle, c'était révélé aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. À Paul. Paul, lui, le révèle maintenant à l'Église, aux païens qui font partie de cette Église-là, mais aussi c'est révélé aux dominations, comme il est dit au verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Fait que l'Église le transmet dans son fonctionnement, elle le transmet ici aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes. Puis ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Puis ça, ben, c'est selon le dessein de Dieu, le dessein éternel de Dieu. C'est vraiment merveilleux quand on voit tout ça, ce qui nous a été donné. Puis la conclusion de tout ça, ben, c'est que nous, païens, comme les Juifs aussi, on peut s'approcher de Dieu avec confiance. On vient dans sa présence avec confiance, sachant qu'on est reçu à cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est aux yeux de tous sur la terre, puis dans les lieux célestes, c'est C'est la sagesse infiniment variée de Dieu qui est manifestée à travers son Église. C'est que je m'arrête là pour tout de suite, pour ce soir, puis je vous donne la possibilité de prendre votre micro et si vous avez des questions ou des commentaires, puis si jamais bien, vous êtes pas capable de prendre votre micro, des fois après un petit bout de temps, on dirait qu'on ne peut pas le prendre, faites-moi signe, puis je vais vous donner la possibilité de le prendre. Ça fait que je m'arrête là.
Oui.
Je vais revenir au chapitre 3, le verset 13.
Et
Je trouve que c'est vraiment un beau verset de la Bible. Il dit aussi, si je comprends bien, en tout cas, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, parce qu'il est en prison présentement. Et ça, elles sont votre gloire. Donc, il dit en fin de compte, si je comprends bien, suite à ce que j'ai annoncé l'Évangile, bien, cela m'a amené en prison. Et le fait que je vous ai annoncé l'Évangile, que vous avez cru, même si je suis en prison, bien, cela, c'est votre gloire maintenant, parce que vous avez été connu de Dieu et rapproché de Dieu.
Ouais. Et aussi, ben, c'est le fait que peut-être, si on voit que, waouh, c'est ce qui est arrivé à Paul, ben, moi, je me recule, là. Je ne vais pas faire connaître le mystère qui m'a été révélé parce que là, il va m'arriver la même chose que Paul. Fait qu'il dit de pas se perdre courage à cause de ça, mais d'avancer parce que lui, même s'il est en prison, là, il est heureux là, parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Là. Parce qu'il a accompli le travail que le Seigneur voulait qu'il accomplisse.
On va continuer d'abord un petit peu.
OK.
Le verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est quelque chose de grand. C'est que le Saint-Esprit nous a été donné.
Ça nous amène à la deuxième prière de Paul, parce qu'il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Il a dit dans le verset 1, à cause de cela, mais là, il dit, à cause de cela, dans le verset 14, je fléchis les genoux. Donc ici, il nous dit vraiment, il nous donne sa prière pour les païens, là. Puis pour l'Église. On va regarder ça, le Seigneur voulant, la semaine prochaine. On dirait que Paul, quand il écrit, à un moment donné, il tombe en prière. Ou, comme dans Romain, une doxologie qui donne gloire à Dieu. C'est comme si il ne peut plus se retenir, mais il se met en prière devant le Seigneur. Puis en même temps, mais pour eux, de l'Église, parce qu'ils pouvaient se décourager du fait que il voyait Paul en prison. Mais Paul n'aurait pas changé sa façon d'agir, même s'il était en prison.
En fin de compte, c'est la grâce de Dieu qui l'a fortifié durant tout son ministère.
Ouais.
Malgré tout ce qu'il a pu endurer, tout ce qu'il a pu vivre, c'est encore la grâce de Dieu. Mais pour nous, au mois de mars 2026, c'est encore un exemple pour nous. La grâce de Dieu, elle ne nous a pas été donnée en vain.
Non.
Elle nous a donné pour qu'on puisse continuer à être des témoins pour Jésus-Christ.
Ouais.
Ben, je ne sais pas si je. La façon que je peux comprendre ça, c'est par la grâce de Dieu On peut continuer à marcher et à être des témoins pour Jésus-Christ.
Oui,
Sans la
exactement.
grâce de Dieu, on ne pourra pas rien faire.
Non. Parce que nous aussi, on était rebelles, on était contre lui, mais il nous a fait, et c'est un peu comme il a pris ses ennemis, puis il en a fait ses serviteurs.
Ouais,
Il a
c'est ça.
gagné notre cœur, puis il en a fait, il a utilisé ses ennemis comme serviteurs maintenant, parce qu'il a gagné notre cœur maintenant.
J'aimerais ajouter quelque chose, Gérard, parce que tu as parlé, c'est sûr que dans la parole de Dieu, on voit que Paul a souffert beaucoup pour l'Évangile. Puis à sa conversion, dans Acte 9, le verset 15 et 16, quand Paul est venu au Seigneur, va lire les versets,
Oui.
mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Ouais.
À son conversion, le Seigneur montra à Paul qu'il devait souffrir.
Ouais.
Puis en même temps, ici, le mot, cet homme est un instrument. C'est un instrument, tu peux pas, mettons que tu te prends un instrument pour travailler, tu fais du travail, tu vas faire, je sais pas, mettons une chaise, la chaise est belle, ben là, c'est pas à cause d'un instrument, c'est toi qui t'en es servi. Fait que
Exactement.
là, ça nous montre que le Seigneur s'est gardé la gloire pour lui. Un instrument. Le Seigneur garde la gloire pour lui. Fait que c'est ça que je voulais partager.
La seule chose pour un instrument, c'est d'être disponible puis d'être bien aiguisé.
Oui, c'est ça.
Fait référence à l'obéissance, en fait.
Ouais, c'est ça.
Gérald, moi, j'aimerais ça que tu reviennes pour te donner des explications sur les aiguillons. J'aimerais me faire une meilleure idée de
OK.
ce que c'est que tu as parlé tantôt.
Les aiguillons, c'est que quelqu'un qui poussait comme des bêtes, comme des taureaux, des vaches, il y avait un aiguillon, puis s'il ne voulait pas avancer, il les piquait avec l'aiguillon. Mais ce qui arrivait, ben, la réaction des animaux, c'était de ruer. Mais en ruant, ils ruaient contre les aiguillons, ce qui se faisait encore plus mal, ils se blessaient encore plus, là. S'il y avait avancé au lieu de ruer, ben, mais c'était ça que c'était comme l'histoire de Paul, là. Paul, en fait, Dieu, puis lui, il ruait contre les aiguillons parce qu'il se blessait encore plus en persécutant au lieu de se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait. Il a arrêté de ruer contre les aiguillons. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, c'est ça que Paul, le Seigneur lui disait. Puis il a arrêté, il s'est soumis. C'est que quand on est rebelle, c'est pénible, c'est dur quand on est rebelle à Dieu. Mais quand on se soumet à lui, ben, là, c'est beaucoup mieux. Car comme le Seigneur a dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Est-ce que dans le fond, c'était pas après l'attelage, ça?
Non, c'était quelqu'un en arrière qui venait avec un aiguillon. C'est comme on pourrait dire avec une fourche.
OK.
Puis là, ben, mettons qu'il pique l'animal pour qu'il avance. Puis là, ben, l'animal, sa réaction, c'est de ruer. Puis ben, là, il se fait encore même plus mal.
Je comprends. Merci.
Gérald, moi, je trouve ça a attiré mon attention, c'est le verset 10.
OK.
Il dit, afin que la sagesse, là, je suis embarbé, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. Puis on voit dans 1 Corinthiens 11 aussi que les anges assistent à notre culte du dimanche. Puis ça m'impressionne de voir que des êtres aussi puissants que les principautés et les autorités apprennent la sagesse de Dieu par l'Église. Fait qu'on est
Par
comme encore
l'obéissance.
des instruments qui, non seulement on s'instruit mutuellement, mais on montre aussi aux principautés, pour aux autorités, là,
Ouais.
la sagesse de Dieu.
Ouais.
C'est à lui la gloire.
Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que d'un côté, tu sais, les anges, ils peuvent voir sur la terre toute la rébellion contre Dieu, mais ils voient que le plan de rédemption de Dieu a fait en sorte qu'il y a des gens maintenant qui sont gagnés par l'Évangile, puis maintenant, au lieu de se rebeller, ils se soumettent de bon cœur. C'est pour ça que, comme Paul est dit, s'il y en a qui se plaisent à contester, on n'a pas cette coutume-là, pas plus que les églises de Dieu. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui contestent, ils disent, ah non, moi, je ne veux pas faire ça comme ça. Mais c'est quand on se soumet de bon cœur au Seigneur dans ce qu'il veut qu'on fasse, bien, les anges, ils voient ça, puis ils disent, ah, regarde, oui, le plan de rédemption de Dieu vraiment fonctionne. Parce que ces pécheurs-là qui étaient rebelles, maintenant, sont soumis. Puis soumis de cœur, pas soumis de force, mais soumis de cœur.
C'est une bonne remarque, Richard, franchement, là. C'est beau à entendre. Puis, quand on est réunis, en fin de compte, on sait qu'on n'est pas seul.
Non.
C'est vraiment grand, c'est vraiment quelque chose de bien. Je te remercie.
Et je pense qu'il ne faut pas confondre les dominations et les autorités dans le chapitre 3, verset 10, avec au chapitre 6 et au verset 12, c'est d'autres sortes d'autorités, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ce n'est pas les mêmes dominations, là.
Non,
Non, non. Non,
ouais,
c'est ça.
il dit bien, hein? Ah,
C'est
les
ça.
lieux doit être la partie rebellée de ces anges-là.
OK, c'est que notre temps est arrivé. On va peut-être terminer par un mot de prière. Ceux qui doivent partir pourront partir. Puis, mais s'il y en a qui veulent continuer de discuter, on pourra le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie. Ton plan est tellement merveilleux, notre Dieu. On était auparavant ignorants. Mais maintenant, tu nous as montré ces choses. Tu nous as fait connaître ce mystère-là, Seigneur, par ton apôtre Paul, par les apôtres aussi, et les saints prophètes, les saints apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, Seigneur, qui nous ont donné toute cette connaissance. Puis on te remercie parce que en ayant cette connaissance-là, notre Dieu, on veut se soumettre de cœur à toi pour devenir tes serviteurs, afin de la transmettre aussi, puis aussi de démontrer à ces dominations-là, ces autorités-là dans les lieux célestes, démontrer ta sagesse infiniment variée dans l'obéissance et dans le respect et dans l'amour et dans le dévouement. On te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont là ce soir. Bénis chacun. On te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.